Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du lundi 28 avril 2014, en direct du studio 13 ici à Washington, au micro Bagassi Koura et Anne Alberson. Bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, en RCA, quelques 1500 musulmans peuls ont été évacués de Bangui.
Beaucoup de ces musulmans peuls regrettent leur départ, mais se disent contraints de quitter Bangui parce que leur sécurité est menacée.
Après les expulsions massives de ses concitoyens du Congo-Brazzaville, Kinshasa joue la carte de l'apaisement.
Nous espérons obtenir des résultats avec les démarches diplomatiques. Il ne sert à rien de s'énerver pour l'instant.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. En Guinée, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola semble s'être stabilisée. Au Burkina Faso, le parti au pouvoir demande au président Blaise Compaoré d'organiser un référendum pour la modification de la loi limitant les mandats présidentiels.
Je crois que, au nom du principe de la souveraineté du peuple, il n'y a que le référendum pour nous départager. C'est la démarche et la logique du CDP.
Sans oublier, en fin d'émission, nos pages sport et musique. Mais avant, le journal.
En République centrafricaine, la délocalisation des musulmans peuls du PK13 vers le nord se poursuit. Plus de 1500 d'entre eux ont été transférés ce dimanche par l'Organisation internationale des migrations et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés vers les villes de Sido et de Kabo. Le point avec Darina Naidou.
Les quelques 1500 personnes concernées ont été transférées vers Kabo et Sido, deux villes frontalières du Tchad, à bord d'une vingtaine de véhicules. Il s'agit d'une deuxième opération de délocalisation après celle contestée des 95 musulmans conduits la semaine dernière à Bambari. Beaucoup de ces musulmans peuls regrettent leur départ, mais se disent contraints de quitter Bangui parce que leur sécurité est menacée. À Bangui, l'opération de délocalisation est fortement critiquée par certains membres du gouvernement et même la classe politique centrafricaine. À l'intérieur du pays, des milliers de personnes ont manifesté ce dimanche à Sibut. Les contestataires protestaient contre le projet de transfert des ex-combattants de la Séléka dans la ville. À Bangui aussi, ce projet a suscité une vive réaction au sein de l'ex-coalition rebelle. Au cours d'une réunion élargie hier après-midi, certains leaders l'ont rejeté, car selon eux, tous les chefs n'ont pas été associés à la décision. Mohamed Moussa Dafane, président national de l'ex-Séléka.
Ce mémorandum a été signé de manière unilatérale par un de nos officiers généraux. Il n'a pas consulté la base et il ne s'est pas référé à la direction politique. Et donc ce mémorandum est déclaré de nul effet.
Mohamed Moussa Dafane, président de l'ex-Séléka.
Kinshasa joue la carte de l'apaisement après les expulsions massives de ses concitoyens qui vivaient au Congo-Brazzaville. Des associations de la société civile ont même appelé à des représailles en réaction à ce que mène Brazzaville. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa.
Nous sommes très préoccupés par les violations des droits élémentaires de la personne qui entoure ces expulsions, qui relèvent naturellement de la souveraineté d'un État comme le Congo-Brazzaville. Ce que nous avons à redire, c'est que quelles que soient les raisons qui peuvent justifier une expulsion, rien ne peut justifier des comportements attentatoires à la dignité et aux droits de nos compatriotes. Nous l'avons fait savoir à l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Kinshasa, qui a été convoqué aux affaires étrangères. Nous l'avons fait savoir au gouvernement congolais et même une délégation ministérielle a pu rencontrer la plus haute autorité du gouvernement du Congo-Brazzaville. Bon, nous constatons jusqu'à présent peu de changements. Vous savez, il y en a pour à peu près 400 000 de nos compatriotes là-bas. Près de 10 000 ont déjà été refoulés. Nous organisons leur accueil. Nous demandons à nos compatriotes de garder la tête froide. Nous espérons obtenir des résultats avec les démarches diplomatiques. Il ne sert à rien de s'énerver pour l'instant.
Voilà, c'était Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa.
En Guinée, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola semble s'être stabilisée. Les autorités sanitaires du pays affirment que la situation est désormais mieux contrôlée. Au cours de la semaine écoulée, on a enregistré 6 nouveaux cas, un à Conakry et les 5 autres à Gekedou, dans le sud du pays. 21 malades sont sortis des centres de traitement. Le point avec Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
Le gouvernement guinéen avait promis de revoir le bilan. Ainsi, seuls les cas confirmés au virus Ebola sont comptés. Selon les derniers chiffres, 115 cas sont confirmés, dont 72 décès. L'optimiste des autorités sanitaires vient aussi des 878 personnes qui avaient été recensées pour être des proches des malades. Après 21 jours, temps suffisant pour l'incubation du virus, 588 sont sortis de cette liste de personnes à surveiller. Autre signe positif, seulement 12 malades restent hospitalisés pour tout le pays. Toutefois, le gouvernement recommande fortement la vigilance et demande que les interventions soient renforcées dans la capitale pour, dit-il, maintenir le suivi régulier des malades et autres cas suspects. Conakry Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Au Burkina Faso, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès parti au pouvoir, demande au président Blaise Compaoré d'organiser un référendum sur le sujet controversé de l'article 37 de la Constitution. Cet article limite les mandats présidentiels à deux. L'opposition refuse tout amendement de la loi fondamentale et récemment, de nombreux caciques du CDP ont claqué la porte sur les raisons de cet appel. Jocelyne Vokuma, directrice de la communication du CDP, jointe à Ouagadougou.
Pour départager la classe politique et l'opinion nationale sur le fait qu'on n'arrive pas à s'accorder ou à se comprendre autour de la problématique de l'article 37, les uns disent qu'on ne peut pas le modifier. Alors que dans les dispositions constitutionnelles, rien n'empêche de le faire. Et je crois que, au nom du principe de la souveraineté du peuple, il n'y a que le référendum pour nous départager. Que la démarche et la logique du CDP, c'est le Conseil national du parti qui le demande. Pour dire que c'est un appel que nous avons lancé, parce que n'oubliez pas qu'il est le président du FASO, même s'il est mis sous la bannière d'un parti politique quelconque. Donc c'est nous du CDP, le Conseil national du CDP, qui lui lance un appel afin qu'il convoque un référendum pour trancher cette question et situer tout un chacun.
Céline Vokuma, directrice de la communication du CDP, jointe à Ouagadougou.
L'Afrique du Sud a commémoré hier le 20e anniversaire de sa première élection multiraciale qui avait marqué la fin du régime d'apartheid. Le 27 avril 1994, où Freedom Day est considéré comme le jour 1 de la démocratie sud-africaine. Jacob Zuma est candidat à sa propre succession à la présidentielle du 7 mai prochain. L'Afrique du Sud, 20 ans après, David Zunminou-Dossou de l'Institut d'études de sécurité à Pretoria.
Les 20 années déjà passées, l'Afrique du Sud dispose en tout cas d'un système démocratique. Il y a un rôle de l'opinion publique, il y a un respect des libertés publiques. Il y a également des efforts qui ont été faits en s'adressant aux questions de l'éducation, logement. Mais 20 ans après la fin de l'apartheid, il y a beaucoup de Sud-Africains qui sont encore insatisfaits, particulièrement avec la classe dirigeante actuelle au sein de l'ANC qui semble être en perte de vitesse en matière de respect des vertus pour lesquelles Nelson Mandela, Oliver Tambo, Walter Sisulu et d'autres combattants de liberté ont sacrifié toute leur vie. Malheureusement, le rapport de la médiatrice de la République a éclaboussé Zuma et exposé au grand jour la corruption au plus haut sommet de l'État. Il n'en demeure pas moins vrai que l'ANC risque d'être encore à la tête de cet État. Reste à savoir s'ils vont pouvoir prendre la mesure de la colère qui gronde dans le pays et essayer de rajuster le tir sur les promesses faites aux populations qui attendent toujours de voir leurs rêves devenir réalité.
C'était David Zunminou-Dessou de l'Institut d'études de sécurité à Pretoria.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 8 personnes en Irak ont été tuées lorsque des hélicoptères de l'armée ont attaqué un convoi de camions-citernes tentant d'entrer clandestinement dans le pays depuis l'est de la Syrie. Selon les informations, l'opération a eu lieu dimanche matin à l'intérieur de la Syrie, près de la province d'Anbar, à l'ouest de l'Irak. Un porte-parole du ministère irakien de l'Intérieur a déclaré que les avions-citernes avaient pour mission de fournir du carburant à une filiale d'Al-Qaïda, en l'occurrence l'État islamique d'Irak et du Levant. Le groupe djihadiste a contrôlé une partie de la province d'Anbar depuis décembre et se bat souvent contre les forces de sécurité irakiennes.
Le pape François a canonisé deux de ses prédécesseurs, Jean XXIII et Jean-Paul II, qui ont été parmi les papes les plus emblématiques de l'après-guerre. Dans son homélie, le souverain pontife a rendu hommage aux deux hommes courageux devant plus d'un million de fidèles en extase sur la place Saint-Pierre à Rome. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église que deux anciens papes sont élevés en même temps à la sainteté. Réaction de l'abbé Timothée Diallo de l'archevêché de Bamako au Mali.
Sur la place Saint-Pierre, il y a plus de 2 millions de pèlerins. C'était impressionnant. C'est un signe fort de notre temps. Il y a des saints parmi nous, des exemples, des personnes vivantes au milieu de nous, avec nous, que nous pouvons suivre pour marcher sur le chemin de la sainteté. Et le pape Jean-Paul II, il est venu au Mali en janvier 1990 et nous l'avons rappelé il y a quelques semaines pour dire que le pape Jean-Paul II sera canonisé. Jean 23, c'est un exemple aussi, mais je dirais ma génération, on ne le connaît pas bien, mais moi j'ai eu à faire un travail sur lui. C'est un symbole pour notre temps aussi parce que celui qui a pu apporter un changement dans l'Église catholique au niveau de la liturgie et je dirais même au niveau de la mentalité. Donc c'est un grand saint qui est un exemple très frappant pour chacun de nous qui a amené un certain progrès et un changement dans l'Église catholique.
C'était l'abbé Timothée Diallo de l'archevêché de Bamako au Mali. Enfin, le président Barack Obama a quitté la Malaisie après des pourparlers avec le premier ministre de ce pays. C'est le premier voyage dans ce pays d'Asie du Sud-Est d'un président américain en près de 5 décennies. Le président Obama arrive aux Philippines ce lundi après-midi, peu de temps après la signature d'un nouveau pacte de sécurité de 10 ans entre les deux pays. Ce pacte permettra une plus grande présence américaine en matière de sécurité. L'accord établit un cadre pour la rotation des troupes et des engins américains tels que les navires et les avions de combat dans des bases militaires philippines.
Voilà pour le journal. On retrouve Anne Alberson dans quelques instants. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Bagassi Koura. Au Congo-Brazzaville, les banques sont en surliquidité, ce qui devrait en principe faciliter les prêts aux opérateurs économiques qui en ont besoin pour leurs affaires. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas, comme nous l'explique notre correspondant Nguela Ngusso.
En 2013, par exemple, les banques congolaises se sont encore endormies sur plus de 700 milliards de francs CFA de surliquidité. Les opérateurs économiques qui recherchent des crédits pour financer leurs projets n'obtiennent rien. El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka, le président du patronat congolais, est quasiment aux abois.
Les opérateurs économiques, que ce soit grands ou petits ou micro, ont des difficultés pour leur relance aux activités économiques parce que nous n'avons pas des banques capables de répondre à cela. Aujourd'hui, nous avons des banques commerciales. Les taux ne peuvent pas répondre à quelqu'un qui veut investir dans une activité industrielle qui a rentabilité à moyen et long terme.
Insensibles, les banques ne tiennent pas à perdre un seul sou de leurs bénéfices avec les entreprises congolaises qui n'offrent, semble-t-il, pas assez de garanties. Alexandre Mayamat est le responsable de la Société Générale Congo, filiale d'une banque française.
La singularité de la Société Générale, présente en Afrique depuis 50 ans, c'est qu'elle a su y développer des modes de financement qui permettent à la fois de répondre aux besoins des particuliers et des entreprises africaines, tout en préservant la qualité de nos risques. Parce qu'une banque qui maîtrise ses risques, c'est une banque en qui on a confiance.
Les autorités congolaises estiment que c'est une affaire entre les banques et leurs clients. Toutefois, le gouvernement envisage des mesures d'accompagnement telles que l'énonce ici Gilbert Ondongo, le ministre des Finances.
Au niveau du Conseil des ministres, nous travaillons à déterminer des règles qui rendent le crédit un peu plus facile. Le plus important pour nous à faire, c'est de disposer des ressources longues qui sont adaptées à l'octroi des crédits aux investisseurs.
Pas assez rassurant ni concret pour le président du patronat, Abdoulaye Bopaka.
Le gouvernement jusque-là n'a pas encore fait un effort considérable à ce niveau-là. Donc nous sommes comme un peu les gens abandonnés et nous n'avons pas de fonds. C'est un combat et nous continuons à le battre.
Signalons que le taux de bancarisation au Congo est encore de 5% et seulement 3,4% d'entreprises locales accèdent au crédit bancaire selon la Banque mondiale. Nguela Ngusu, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Au Tchad, la plupart des habitants, même en zone urbaine, préfèrent acheter des terrains avec les chefs traditionnels pour y bâtir leurs habitations. Et cela peut poser des désagréments lorsque les services des cadastres veulent restructurer ces quartiers en traçant des rues ou en laissant des espaces verts ou même des écoles. En ce moment, une telle opération est en cours à N'Djamena et elle coupe le sommeil à certains habitants d'Ambata et d'Antrone dans le 7e arrondissement de la capitale tchadienne. De N'Djamena, la correspondance de François Diekombe.
Déguerpissement ou expropriation en amène un phénomène qui ne finit jamais. Au quartier Atron et en Bata actuellement, le phénomène prend le nom de restructuration. Si la population qui s'est installée sur ces terrains non viabilisés à elle-même souhaitait cette restructuration pour se situer, l'ampleur qu'elle prend l'inquiète. Des milliers de maisons sont badigeonnées et un délai très court, allant de 10 à 15 jours, est souvent donné aux propriétaires pour évacuer. C'est le cas de Sadio Wami, enseignant de son état, dont la maison se trouverait sur une réserve de l'état.
S'ils peuvent nous laisser un temps afin que nous puissions continuer juste pour finir l'année avec les enfants là, sinon venir casser aussitôt là, alors on sait, par exemple moi je suis ici, alors si on vient aujourd'hui, on casse la maison, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être je vais me retrouver à Kundul ou bien à Glendé là-bas et l'école des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont aussi dans des écoles privées et aussi avec l'approche de la saison pluvieuse, ça nous fait vraiment penser beaucoup plus.
Pour échapper à la longue et onéreuse procédure légale d'acquisition de terrain, les citoyens se tournent généralement vers les Boulama, ces chefs de terre qui engagent une procédure expéditive de vente consistant à prendre les dimensions du terrain en comptant des pas et à délivrer une attestation de vente science tenante. Barré a pu acquérir avec le Boulama au quartier Mbata une parcelle qu'il compte exploiter. Mais l'équipe de restructuration qui se rapproche de son terrain lui donne des soucis.
Voilà qu'aujourd'hui, on a investi, on a acheté le terrain avec les Boulama, bien sûr. On dit c'est sauvage. Mais on n'avait pas de moyens pour acheter les terrains bornés et autres. Alors maintenant, on te demande de quitter sans te donner une rémunération ni on te met dans la rue de la sorte. Il y a maintenant ne se situe pas seulement au niveau de Moursal ou bien au niveau de Chagua. Même Bakara, je peux dire que Bakara est dans Ndjamena au 7e arrondissement. Donc, ils ont intérêt à tracer le rue là, au-delà de Bakara, pour que même si tu investis 500 000, tu es bien poché.
La vente des terrains par les Boulama jugés anarchiques a été officiellement suspendue par le gouvernement. Mais elle se poursuit sous une forme ou sous une autre. Selon la loi, la terre appartient à l'État. Pour faciliter l'acquisition des terrains, le ministère de l'Habitat, des Affaires foncières et des Domaines a mis sur pied le guichet unique pour centraliser et faciliter la procédure. Bruno Ndungaba, un des responsables du guichet unique, explique la procédure à suivre pour obtenir un terrain au Tchad.
La procédure légale est celle qui vient de la CADZU. La CADZU, c'est la commission d'attribution des terrains en zone urbaine qui octroie des terrains aux demandeurs, ceux qui ont préalablement introduit une demande et qui ont été sélectionnés et catégorisés. Après une sélection, un terrain leur est attribué sur un site donné. Après l'attribution, on vous fournit une fiche d'attribution provisoire qui vous permet d'engager la procédure de régularisation de vos terrains.
N'Djamena, François Ndjekombe, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Lomé, la capitale togolaise, vit depuis quelques jours au rythme d'une fête foraine dénommée le Pagne, en fait, c'est une foire qui veut faire la promotion du Pagne à travers plusieurs activités, dont des expositions. Les animateurs de l'événement viennent des pays d'Afrique de l'Ouest, de Lomé, le reportage de Kai Lawson.
Lomé veut récupérer son nom de capitale ouest-africaine du Pagne, ce tissu imprimé qui, il y a une centaine d'années, a fait la réputation des fameuses danabenses, les commerçantes de Pagne. Pour célébrer le Pagne, la Chambre du commerce et d'industrie du Togo crée l'événement Le Pagne en fête. Alexis Akereburu, président du comité d'organisation de cette foire.
D'abord, avec l'avènement du prêt-à-porter, les jeunes ont une relation un peu difficile avec le Pagne. Et donc, l'une des raisons justement de ce Pagne en fête, c'est de réconcilier les jeunes avec le Pagne également. Il y a quelques années, Lomé était connu pour être la capitale du Pagne. Aujourd'hui, tout cela relève complètement du passé parce que le centre des activités s'est déplacé dans les pays de la sous-région en raison des soucis que nous avons connus et des récents événements du Grand Marché. Et donc la Chambre de commerce a voulu faire un sourire à nos commerçantes pour qu'elles oublient d'une façon ou d'une autre des événements qui ont eu lieu au Grand Marché.
Pendant 8 jours, le Pagne est mis en exergue à Lomé à travers des expositions et ventes, des ateliers de formation, des conférences débats, mais aussi à travers des défilés de mode. Le Pagne est un symbole de culture, d'identité, d'intégration et également un moyen de communication, nous disent ces visiteuses que nous avons rencontrées sur le site de cette foire.
Le Pagne est un moyen de communication. Dans les temps, une femme qui s'habillait, à partir de son habillement, on pouvait savoir si elle est jeune fille ou si elle est mariée.
Le Pagne est un élément qui crée la solidarité. Lorsqu'il y a un événement heureux ou malheureux, la première des questions que nous avons l'habitude de poser, est-ce que vous avez choisi un pagne. Vous savez, bien que les pays du Sahel détiennent aujourd'hui le monopole du bazin, ils viennent vers nous pour s'acheter le pagne. Et c'est ce qui crée un brassage entre les cultures de la sous-région. C'est pour cela que nous pouvons dire aujourd'hui que le pagne est également un élément d'intégration.
À cette fête foraine, on peut y découvrir des tissus imprimés, des tissus teintés, des tissés et également des accessoires assortis aux couleurs des tissus. Des sacs et chaussures également confectionnés en pagne y sont exposés. La fête bat son plein avec un seul bémol que déplorent ses exposants.
Cet événement, c'est un truc qui est très important. Mais malheureusement, il n'y a personne qui passe. On déplore le manque de public. Il n'y a pas d'affluence. Mais quelques-uns qui passent, ils essayent d'acheter un peu. Mais jusque-là, on n'a pas encore d'affluence. On ne s'y entendait pas à ce manque de public, si bien qu'on est un peu embêté.
Les gens viennent, mais ce n'est pas aussi très affluent comme les grandes foires qu'on fait d'habitude. Peut-être comme c'est la toute première édition, ça se comprend. En tout cas, nous demandons aux Togolais et aux Togolaises de venir découvrir tout ce que nous avons amené du Burkina Faso.
Dans la continuité de cet événement, le Pagne en fête, qui prend fin ce mardi, la Chambre du commerce et d'industrie du Togo envisage la mise en place d'une industrie de fabrication de pagne dans le pays. Kyle Lawson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
Voilà, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. C'est l'heure des sports. L'actualité sportive du week-end, c'est bien sûr le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Le groupe choc dont tout le monde parle, c'est le groupe D avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la RDC. En attendant de connaître la quatrième équipe de chaque groupe, voici la composition des sept poules. Dans le groupe A, on aura Nigeria, Soudan, Afrique du Sud. Dans le groupe B, Mali, Éthiopie, Algérie. Le groupe C comprendra le Burkina Faso, le Gabon et l'Angola. Le groupe D, le groupe choc donc, la Côte d'Ivoire, la RD Congo et le Cameroun. Dans le groupe E, on aura le Ghana, la Guinée et le Togo. La Zambie, le Niger et le Cap-Vert composeront le groupe F. Et enfin, dans le groupe G, on aura la Tunisie, le Sénégal et l'Égypte. Les deux premiers de chacun des sept groupes seront qualifiés pour la phase finale de la CAN 2015, prévue du 17 janvier au 8 février prochain au Maroc. En football toujours, on en sait un peu plus sur la prochaine CAN junior. 11 équipes ont obtenu en effet leur ticket pour le second tour des éliminatoires de cette CAN junior 2015. Le Mozambique, l'Éthiopie, la Sierra Leone et la Tunisie sont les quatre pays à avoir signé une deuxième victoire en deux matchs. À l'inverse, la Tanzanie et le Congo sont passés après la séance des tirs au but. La plus large victoire est à mettre à l'actif du Soudan, qui a largement dominé la Somalie 6-0. À noter que la confrontation se disputait sur une seule rencontre à Khartoum. Les Lesotho, qui s'en étaient allés gagner largement au Swaziland lors du match aller, a été battu au retour chez lui, ce qui n'a toutefois pas remis en cause sa qualification. Le second tour verra l'entrée en lice des meilleures équipes au regard de leur palmarès, ce qui n'exclut pas quelques surprises. Enfin, en NBA, le championnat de basketball nord-américain, hier soir lors de la quatrième journée des éliminatoires, Washington a battu Chicago 98-89. Golden Gate Warriors d'Oakland en Californie ont battu les Clippers de Los Angeles 118-97. À New York, Toronto a eu le dernier mot sur les Brooklyn Nets 87-79. Et puis enfin, tout à l'heure, il y a quelques instants, donc dans le dernier match, Portland a battu Houston 123-120. Voilà, c'est l'heure de passer à la musique maintenant avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Salut Bagassi, ce matin on se réveille avec le collectif franco-congolais de musique de rap français Bissona Bisso dans Tata Nzambe. Des rivières de sang, le rougit dans ses yeux, le peuple.
peuple est mécontent dans ces drames qui rentrent les armes du mal de qui coule les larmes. Miséricorde à ces félins qui laissent veuves et orphelins. Vallée de l'angoisse, péché, enfant égaré, reine de la tristesse. Beaucoup trop de gens sont tombés, tour à tour nos pays sont bombés, les nôtres bombés. Jalousie, haine, hostilité, ah, Mundombe.
Sur leurs deux albums, le groupe a collaboré avec de grands musiciens et chanteurs africains du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazzaville, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire.
N'oublie pas aussi les Antillais et Cubains qui ont beaucoup participé dans la production de cet album Bagassi. Et en parlant des artistes africains qui ont collaboré, on écoute les voix de Monique Seka, Ismaël Lo, Lokua Kanza, Papa Wemba, Koffi Olomide, Tania Saint-Val, Jacob Devarieux de Kassav, Manu Dibango et évidemment Roldan González Rivero du groupe Orichas.
Bissona Bisso Tata Nzambe. Merci Roger.
De rien Bagassi, bonne journée.
Des chiens enragés, de l'opium, le patron et le moukouyou. Des sorts jetés, tant de morts sur la jetée. Prier, crier de souffrance, mon corps veut lâcher.
Roger Moutou que vous retrouvez dans RM Show chaque jour à partir de 20h au temps universel.
Sans foi ni loi, Tata Nzambe, ici bas, on a besoin de toi. Afin d'affermir notre foi, le bon chemin est si étroit que sa lumière nous éclaire, afin que l'on soit sur la bonne voie. Au-delà des iniquités et des plaisirs charnels, Bissona Bisso revient louer l'éternel. Les sept anges ici-bas ont bien reçu l'appel. Je prêche ces quelques mots, les yeux rivés vers le ciel. Louange à toi, Seigneur de l'univers. Guide-nous vers le droit chemin, chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Prions avec ferveur, frères et sœurs, sachez attendrir vos cœurs. Dans le jardin des hommes, que la foi bouleverse et gêne le pécheur. Qu'elle incite, qu'elle entraîne à se dépasser, qu'elle communique. Quelle que soit ta foi, un seul Dieu unique.
C'est donc avec le groupe Bissona Bisso que s'achève le monde aujourd'hui. Merci à Anne Alberson pour avoir assuré la mise en onde. Merci à tous de rester à notre compagnie.